Et bienvenue tout le monde, et désolé pour le retard, je suis accompagné par l'ami Réco et il y a Basto qui va se joindre à nous. On va parler du chaos au PSG. Il y a un moment, c'est difficile de trouver une autre phraseologie que celle-là. Et on va commencer par un petit dossier dont le Paris Saint-Germain a l'habitude. 2 semaines de suspension de Messi, une nouvelle cacophonie. Qu'est-ce que t'en penses toi, Réco?
Habitué, mais là pour une fois il y a eu une sanction. Alors après on peut se demander si c'est une sanction, une vraie sanction, parce que le Paris Saint-Germain a enfin compris qu'ils avaient décidé de...
C'est chaud. Tu m'entends? Ouais, c'est chaud, vas-y, continue.
Ah ouais? Vous m'entendez? Dites-moi dans le chat, est-ce que vous m'entendez bien ou...
Je sais pas, vas-y, continue. C'était juste qu'il y avait des petits moments où ça laguait un petit peu, mais je pense que ça va se fluidifier avec le temps.
Alors, ok. On se demande si c'est une vraie sanction de l'institution PSG ou si c'est une sanction politique par rapport à l'Arabie Saoudite, par rapport à Messi. Peut-être qu'il, tu vois, si jamais il avait refusé une prolongation, peut-être qu'ils ont un peu les boules. Si jamais il avait accepté de prolonger, on peut se demander est-ce qu'il l'aurait sanctionné aussi ou pas. On peut se demander aussi si Kylian Mbappé faisait ce genre de bêtises avant un match important en Ligue des Champions, est-ce qu'il serait sanctionné ou pas. Donc, il y a pas mal d'interrogations, mais en tout cas, ils l'ont sanctionné. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, on peut en faire plein d'interprétations.
Mais ça, c'est clair, c'est un truc de fou. Et le truc, en plus, qui est assez terrible dans cette histoire, c'est que toutes les interprétations tiennent la route. Il y a notamment l'histoire que Nasser ne voudrait peut-être pas... ça y est, il y a le barbu qui arrive. Enfin, l'autre barbu. Basto, comment vas-tu? On était en train de parler de Messi. Et plutôt que de moi exposer ma science, je vais te laisser enchaîner. Enchaîne, Basto.
Il a dit quoi, Réco, du coup?
Grosso merdo, qu'il y avait plein de scénarios, que c'était une bonne chose, mais qu'il y avait plein d'explications possibles.
Ah oui, c'est ce qu'on en parlait hier, d'ailleurs, ensemble. Oui, il y a effectivement énormément de scénarios possibles et inimaginables. Oh, la belle connexion de Réco. plein de scénarios possibles et inimaginables. Ça peut être celle de Messi qui avait décidé de ne pas prolonger le club. Essaye de prendre la main en disant c'est nous qui le mettons dehors. Ça peut être une guerre interne au sein du club entre ceux qui voulaient pas prolonger Messi, a priori Nasser et sa garde rapprochée, et certains proches de l'émir qui, a priori, eux, voulaient le prolonger. Donc ça peut être un moyen pour ce clan Nasser de prendre la main et de clore ce dossier. Donc peu importe la raison, effectivement, si Réco Baladili, je suis d'accord avec lui, Messi, a priori, ne va pas prolonger, et c'est la bonne nouvelle. Maintenant, on verra si c'est suivi par la suite d'autres sanctions, s'il y a des dérapages des mêmes joueurs, ou si c'était juste un coup purement démagogique.
C'est la question que j'ai envie de te poser, en fait. C'est-à-dire que, est-ce que c'est l'annonce d'une nouvelle politique du club? Est-ce que tu y crois? Ou est-ce que c'est juste encore un coup d'épée dans l'eau? Et Yann, j'ai bien vu ta remarque, hein, mais le truc, c'est que le présent du club, et puis même le passé du club, faut pas oublier les joueurs qui vont revenir, tout ça, c'est mine de rien l'actualité, ça conditionne le futur, donc on est un peu obligé d'en parler. Ah, ça y est, Réco revient. Vas-y, Réco.
Bon, est-ce que c'est mieux ou pas?
Un peu. Et tu lagues pas au niveau de la voix, quoi. Et oui, donc, comme je disais, du coup, je vais te faire rebondir dessus, toi, Réco. Est-ce que tu penses que c'est une sanction one shot ou c'est quelque chose qui est parti pour durer?
Alors, c'est difficile à dire, mais je pense quand même que c'est parti pour durer. Je pense qu'ils ont bien compris que ça bug.
Un peu. Mais c'est pas grave, on fait avec.
C'est ce délire. Tu es connecté en mobile ou sur ta Wi-Fi?
Non, je suis sur ma Wi-Fi, comme d'habitude. Hein.
Ouais, tu as pas essayé partage de données mobiles?
Vas-y, je vais voir.
Reviens dans 2 minutes, une fois que tu auras peut-être réglé ça. Ouais.
Les aléas du direct.
Je te masque, Réco. Voilà. Bon. du coup, tout ça, je pense que oui. Voilà,
la régie, s'il vous plaît, là.
faut pas attendre du club. On a l'impression que c'est encore un petit outburst. Comme on a vu ça, on n'a pas l'impression qu'il y a justement. T'as pas le sentiment qu'il y a une structure derrière qui ait amené cette conclusion. T'as l'impression que de toute façon, ça reste un outburst. Et faut pas espérer. Que ce sérieux-là se poursuive. Après, il ne faut pas l'attendre. On peut l'espérer, mais il ne faut pas l'attendre, parce qu'avec le Paris Saint-Germain, on est un petit peu échaudé sur ce genre de sujet. Nouvelle tentative avec Réco.
Ah,
c'est mieux, là.
Là, c'est nickel, ouais.
Ok, bon, bah, parfait.
Là, c'est nickel. Je pense qu'on avait tout dit sur le sujet. Je pense qu'on va enchaîner avec la suite. On va parler du coup de Marco Verratti. Ah, attends, juste sur le sujet, il y a une remarque là sur laquelle vous pouvez peut-être réagir. Quand ils feront ça à Mbappé, ce sera un vrai message fort.
Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut se poser la question si c'était un autre joueur qui a un statut différent, notamment Mbappé, ou si jamais Messi, par exemple, avait prolongé juste avant, est-ce qu'ils auraient pris la même sanction? On peut se demander. Donc, on verra. De toute façon, comme je disais, aux polémiques Saint-Germain, on aura d'autres exemples qui vont arriver. Donc, on saura très vite. Mais je pense quand même je pense qu'ils ont quand même décidé à un moment donné de sévir. Et je vois mal le PSG sanctionner Messi cette fois et laisser passer pour d'autres fois, même si c'est d'autres joueurs. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils se fassent respecter. Donc, je pense qu'ils prendront les mêmes sanctions.
Bah, c'est la lecture optimiste et j'espère que tu as raison, Rico. Donc, on avait parlé de Marco Verratti, notamment son retour avec 4 kilos de trop. Bon, déjà, qu'est-ce que tu en penses, toi, passe tout ça?
Maintenant, il a l'air fit, hein. Alors il est revenu avec 4 kilos trop, alors qu'il ne faisait pas le mondial. Donc effectivement, c'est problématique. On a vu Pep à City sanctionner notamment Kelvin Phillips parce qu'il était en surpoids. D'ailleurs, Kelvin Phillips ne joue quasiment pas. Guardiola avait dit, hein, si tant qu'il est en surpoids, ça ne sert même à rien d'espérer d'avoir des minutes de temps de jeu. Maintenant, Marco, depuis, il a perdu ses kilos. Hein. Si tu regardes sa tête, il a l'air très très fit même par rapport à certaines années. Mais physiquement, c'est dur, hein. Ouf, et c'est dur. Et je ne pense pas que ce soit une question de surpoids, c'est une question de tout, comme la trentaine arrive. Et quand on n'a pas forcément les bonnes habitudes et les bonnes manières, à 30 ans, ça pue, le corps ne réagit plus comme quand t'as 20 ans.
Est-ce que tu penses, toi, Rico, ben justement, en se focusant sur Marco Verratti, on parlera justement après de la dimension, le rapport du club par rapport à ça, mais juste sur Marco Verratti, est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète? Est-ce que c'est quelque chose qui, somme toute, pour toi, justifie sa saison ou tu l'expliques autrement?
Ça justifie sa saison, oui et non, parce que habituellement, il a l'habitude de revenir avec des kilos en trop ou d'avoir une hygiène de vie un peu ambiguë. Pour autant, les dernières saisons, il a quand même fait de bonnes saisons. Là, cette saison, il est vraiment en difficulté, donc je ne pense pas vraiment que ce soit lié à son hygiène de vie. Je pense qu'il est simplement en difficulté cette année. Ça peut arriver. On verra si la saison prochaine, ça va continuer ou pas. Je pense aussi que ça, c'est aussi dû au fait qu'il soit installé dans un fauteuil depuis trop longtemps, que dans tous les cas, qu'il arrive avec 4 kilos en trop ou pas, il sait qu'il va jouer titulaire. Donc c'est ça aussi. Maintenant, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est aussi lié à la direction. Donc je ne peux pas seulement parler de
On va en
Verratti.
revenir. Ouais, on va. Bah, justement, tu m'as enchaîné dessus. Justement, qu'est-ce que devrait faire le club par rapport à ça? Est-ce qu'il devrait mieux le gérer? Bon, Basto a parlé de l'exemple de Guardiola qui avait été intransigeant avec Calvin Phillips, notamment sur ce sujet-là. Mais justement, est-ce que pour toi, le club doit faire mieux? Est-ce que ça doit venir de l'entraîneur? Si l'entraîneur ne le fait pas, est-ce que c'est au club de le faire? Comment est-ce que pour toi, les choses devraient fonctionner à ce niveau-là?
Totalement, pour moi, de toute façon, même tu auras des entraîneurs comment dire, qui vont punir le joueur. Mais après, tu as la direction qui doit suivre. Et souvent, au PSG, l'entraîneur, il aura beau dire quelque chose, derrière, il y a toujours quelqu'un pour protéger la star en question. Maintenant, moi, je ne peux pas m'empêcher que, pour moi, Verratti, en fait, il fait partie de. Il y a des styles de joueurs qui sont professionnels et qui peuvent. Voilà, ils n'auront pas 4 kilos en trop. Tu vois, un Danilo. Dans le temps, un Zlatan, un Mota, un Maxwell, peu importe. Il y a des joueurs comme ça, tu vois, ils n'arriveront pas avec 4 kilos en trop, c'est des professionnels, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais tu en as comme Neymar, comme Verratti, qui ont besoin d'être suivis, qui ont besoin d'être sans arrêt rappelés à l'ordre, qui ont besoin d'être harcelés, qui ont besoin d'être maternés pour être au top, pour toujours faire attention, etc. Verratti fait partie de cette catégorie-là. Donc tu dois avoir un staff derrière lui qui le suit. C'est bête à dire, hein, ça paraît un peu bébé, mais t'en as qui sont comme ça, tu vois. C'est un peu comme les étudiants à l'école. T'en as, ils sont faits pour aller à la fac parce qu'ils peuvent s'autogérer, ils seront bons à la fac et ils vont s'en sortir. Mais t'en as, tu les mets à la fac, ça va être une catastrophe parce qu'ils vont sécher les cours, ils vont pas aller à l'école, tu vois ce que je veux dire? Et ces gens-là, ils ont besoin d'être en BTS parce que c'est beaucoup plus cadré. Bah, pour moi, Verratti, c'est pareil. Il a besoin d'être cadré comme un Neymar et il a besoin d'avoir un staff, un entraîneur derrière ses fesses. Si Verratti arrivait avec 4 kilos en trop, comme avec Guardiola par exemple, il jouerait pas, il se prendrait une tarte dans la gueule. Déjà, il serait même pas arrivé avec les 4 kilos en trop parce qu'il se serait fait harceler pendant son temps de repos pendant la Coupe du Monde. Mais malgré tout, s'il serait arrivé avec des kilos en trop, il se serait pris une tarte dans la gueule et il serait parti bosser son physique en regardant les autres s'entraîner et en regardant les autres jouer parce qu'il n'aurait pas joué du tout, malgré qu'il s'appelle Marco Verratti. Donc, à un moment donné, avec ce genre de joueur, tu as besoin d'avoir un staff intransigeant, entraîneur comme directeur sportif, comme président. Et malheureusement, au PSG, on ne l'a pas.
Et du coup, Basto, quelle est ta lecture sur le sujet? Et tu peux rebondir aussi sur ce commentaire si tu arrives à le lire.
Alors, déjà, c'est trop tard, à mon avis, pour Verratti sous Guardiola. Maintenant, Verratti a 31 ans. S'il était arrivé peut-être quand il avait 21 ans, pourquoi pas? J'ai plus l'impression que si Verratti arrive à City, moi, il finirait sous le banc, sous Guardiola. Hein. Si y a pas une amélioration honnête, il a un cadre très précis avec son Rodri 6 et ses milieux qui se projettent devant. Donc, je vois pas où Verratti pourrait rentrer dans le système Guardiola actuel. Je crois que sinon, Recoba a tout dit. On sait que Verratti avait, au-delà du staff, avait notamment été cadré par Ibra, qui était un peu son grand frère. Quand Ibra était au PSG et ça lui avait permis de, il l'avait pris sous son bras et il lui disait attention, sors pas, etc., etc. Donc ça avait permis ces années-là de cadrer tout ça. Et après, avec le départ d'Ibra, ça n'a pas été remplacé. Il n'y a pas une autorité qui a été remplacée, que ce soit au niveau des dirigeants, du staff ou des cadres sur le terrain. Donc oui, comme a dit Recoba, s'il n'y a pas de cadre, et bah Verratti en profite et se faufile dans l'ouverture.
Ouais, bah, par rapport à ce que disait Rico, enfin, il y a un moment où oui, tu peux materner les joueurs. Il y a effectivement des joueurs, mais c'est plus fonctionner à l'affect. Mais il y a juste un moment où il faut être dur avec les joueurs, quoi. Ils sont payés, ils ont des devoirs, ils ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Et quand ils circonviennent pas à leur responsabilité, à faire ce qu'ils doivent faire, bah, il faut juste être ferme et arrêter de tout leur céder, de les traiter comme leurs joyaux. Il y a vraiment eu cette politique-là au Paris Saint-Germain de toujours traiter ses joueurs préférés comme des joyaux qui avaient tous les droits, qui ont des passe-droits, quoi qu'ils fassent. Bah, comme tu le disais, ils sont titulaires, mais même au-delà d'être titulaires, ils sont intouchables et dans l'esprit, et dans la forme, et dans la lettre. Et t'en arrives à des situations qui parfois sont ubuesques, où il y a littéralement des abus de pouvoir qui sont faits par les joueurs et face auxquels le club est littéralement désarmé. On parlait il n'y a pas si longtemps d'une amende qui a été fait auprès de Messi. T'as un Marco Verratti qui fait une saison qui est sans dessus tout, y compris pré-Coupe du Monde. Il revient à la Coupe du Monde, il est en surpoids. Le fait que le club n'ait rien dit malheureusement beaucoup trop de choses sur ce club. Et par rapport à ce que tu disais au début, et j'en finis avec cette intervention un peu longue, par rapport à ce que tu disais au début, c'est toi, tu étais optimiste par rapport à Messi, ça va se reproduire. Bah justement, le fait de voir qu'avec Marco Verratti, ça ne s'est pas produit, c'est pas quelque chose qui m'incite à cet optimisme-là. Sinon, bah alors petite news flash, les scouts du PSG qui ont été aperçus à Rome pour superviser Tammy Abraham, vous en pensez quoi? Vas-y, on commence, t'as l'air d'être enthousiaste.
Ouais, j'ai envie de partir. Non, je disais en rigolant quand la rumeur Kane est sortie,
80 millions.
je disais à un ami quand 40 millions, c'est ça
80, 80, 80.
Hein?
Ouais,
45 ce matin.
Ouais, mais là, 80.
Déjà 45, c'était deux fois le prix, mais alors 80. Bravo, oui, il est mignon, hein, il fait une bonne saison à Rome. À Rome, il est plutôt bon. À Chelsea, ça a été plus compliqué, mais c'est un bon joueur de Europa ou Conference League, comme la place de Rome actuellement. Je disais, oui, en rigolant à un ami, quand la rumeur Kane était sortie, je disais Campos, il va nous faire un pare-feu. Tu vois, il va bien y avoir un international neuf anglais qui arrive, mais ce sera Abraham. La rumeur elle sort une semaine après, malheureusement. Donc, non, j'ai rien d'autre à dire. Ça me fait plutôt rire, mais. 80, c'est la clause qui est à 80. Ok, je suis mis dans le. Oui, non, mais même si on arrive à le négocier à 40-45, Abraham, ça... non, pour moi, non.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, Rico?
Bah, c'est pour moi, c'est encore trop irrégulier et encore pas assez accompli. Je pense qu'on a besoin d'une pointure et il l'est pas encore.
En même temps, Rico.
Abraham, c'est en général une bonne saison et puis derrière, il manque, tu vois. Il a fait de très bonnes saisons, que ce soit, je crois que c'était Brighton ou Swansea, un club comme ça. Après, il y a eu Chelsea et il y a eu la Roma, où il a fait une top saison à plus de 20 buts. Mais derrière, il n'arrive pas à continuer sur cette deuxième, troisième saison où vraiment il s'impose, tu vois, que ce soit à Chelsea, à la Roma ou avant. Et malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, nous, on a vraiment besoin d'une vraie pointure. Et je pense qu'Abraham n'est pas encore le joueur qu'on a besoin. Il a encore besoin de s'accomplir, d'avoir plus de régularité et surtout dans la finition. C'est un gros problème qu'il a, c'est vraiment la finition. Il se procure pas mal comment dire, d'occasions, mais il a du mal à les finir. Et Mourinho lui a déjà reproché ça plusieurs fois. Et c'est quelqu'un aussi qui mentalement est relativement fragile. Et dans un contexte comme le PSG, pour moi, c'est insuffisant.
Mais
Ouais,
justement, juste réagir très rapidement et après je te laisse y aller, Basto. C'est pas un step-up quand même au niveau certitude par rapport à une recrue très récente qu'on a pris en attaque?
tu parles d'Ekitike?
C'était pour troller. T'es pas obligé de répondre.
Préféré
Vous l'avez dit, tu voulais y aller, Basto.
Ouais, juste pour aller dans le sens de Rico, parce que j'ai les stats d'Abraham devant moi quand il parle des régularités d'une saison à l'autre, effectivement. Je prends un exemple. 2017-2018, 8 buts en 41 matchs, donc c'est pas terrible. Celle d'après, 26 buts en 40 matchs. Après, 12 buts en 34 matchs, 19 en 49. Bon, et à Roma, l'année dernière, il fait une bonne première saison avec 29 buts, 58 matchs. Et cette année, c'est que 9 buts en 45 matchs. Donc, c'est vrai que d'une saison à l'autre, il va mettre plus de 20 buts. Et puis après, il va en mettre 7 ou 8. Quoi. Donc, c'est... Il n'y a pas de constance.
Mais ça, c'est traduit par son irrégularité, pardon, même pendant la saison. Ouais. Parce qu'il a des passages où il va te mettre des doublés, il va marquer et tout. Puis après, il va avoir des passages à vide de 4, 5, 6 matchs. Des fois, il va finir même sur le banc. Et mentalement, il a du mal à se remettre. Dès qu'il a une baisse de confiance, il a du mal à s'en remettre. Et Mourinho, on a déjà parlé de ses problèmes de finition et de ses problèmes au niveau mental. C'est un petit peu comme il disait l'image de partir à la chasse avec un chat plutôt qu'un lion. Bah, Abraham, c'est un petit peu ça. Et quand au PSG, tu as besoin d'une vraie pointure d'envergure et surtout forte mentalement vu le contexte, bah, Abraham, pour moi, ce n'est pas l'attaquant qu'il nous faut.
Mais justement, je te propose du coup, Rico, de rassurer Franck en énonçant un peu ce qui est la nouvelle politique du Paris Saint-Germain, ou en tout cas ce qui en ressort, de recruter dans la jeunesse, de recruter dans la France, de recruter des joueurs d'équipe. Est-ce que pour toi, on part sur la bonne direction?
Ouais, c'est une question délicate. Si je dois répondre, je dirais quand même non, parce que pour moi, tout ça n'est pas lié en fait. Pour moi, oui, il faut des joueurs d'équipe. Oui, il faut aussi quelques joueurs français. Oui, ce serait bien d'avoir quelques joueurs d'Île-de-France. Mais de là à se focaliser absolument sur des joueurs français, des joueurs d'Île-de-France, des joueurs d'équipe, non, pour moi, c'est un tout. Quand tu regardes à Toulouse, tu as je ne sais pas combien de nationalités différentes. Et pourtant, ça matche super bien. La diversité des cultures fait aussi la force d'une équipe. Donc, pas besoin d'avoir full France. On a essayé déjà au Paris Saint-Germain d'avoir une équipe Projet Île-de-France. Je crois que c'était en 2001 ou 2002, quelque chose comme ça. Ça a été un flop monumental. Donc, non. Mais par contre, oui, effectivement, ce serait bien d'avoir quelques joueurs d'Île-de-France, d'avoir quelques joueurs français. Il faudrait qu'ils soient bons. Parce que si on part dans ce principe-là, des Paoletta, on n'en aura pas. Des Nuno Mendes, on n'en aura pas. Des Rai, des Ricardo, on n'en aura pas. Donc, je ne vois pas l'intérêt, en fait, de recruter seulement français ou seulement Île-de-France. Il faut recruter des joueurs qui t'apporteront une plus-value de par leur niveau, de par leur mentalité, parce que c'est des joueurs d'équipe qui peuvent matcher avec tel joueur, avec telle star que tu as devant, peu importe. Mais il faut simplement une cohérence. Et pour moi, la cohérence, elle peut être faite de n'importe quel joueur, de n'importe quel profil, peu importe le projet et la ligne éditoriale que tu veux mettre en place, peu importe, mais la ligne footballistique que tu veux mettre en place. Mais pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir que des joueurs français ou d'être focus joueur français, focus joueur d'Île-de-France ou focus joueur d'équipe.
Alors, avant de laisser la parole à Basso, je vais juste préciser, oui, en soi, il faut connaître l'identité du coach, mais tu as, mine de rien, le club qui annonce, en tout cas, ou qui fait courir des bruits sur des politiques sportives, et du coup, inévitablement, on réagit dessus. Mais bien sûr, tu as raison, il y a un moment, il va falloir qu'on ait le nom du coach pour s'intéresser vraiment aux joueurs. Mais maintenant, j'ai demandé à Basso d'en parler, parce que c'est un grand connaisseur de la Ligue 1, fou amoureux de tous les joueurs qui sont listés, et je vais te laisser, du coup, déclarer ton amour, Basso.
Recruté en Ligue 1, jeune, français. Pourquoi pas des joueurs comme Enzo Lefebvre, des joueurs comme à Lens, Medina, Denzo. C'est pas trop frais. Ils arrivent pour être sur le banc, ils arrivent pour être en rotation et en complément, évidemment, d'une recrue qui serait Barella, Brozovic ou je ne sais quoi. Ouais, parce que si tu recrutes que français sans cadre fort, tu ne refais que la déco. Et on a fait une vidéo avec Lionel sur cette chaîne sur le bilan des mercato du PSG et on a remarqué que tous les joueurs, globalement, même pas qu'au PSG, qui partaient de la Ligue 1 directement dans un grand club, souvent, il y avait un échec. Michy Batshuayi à Chelsea, Bakayoko de Monaco à Chelsea, Malcolm de Bordeaux à Barcelone, etc., etc. La liste est énorme. Ceux qui réussissent, c'est des joueurs qui arrivent dans des clubs où il y a déjà des cadres, où ils commencent sur le banc. Fabinho commence 3 mois sur le banc à Liverpool. Camavinga a passé une année sur le banc au Real Madrid. Ils ont déjà les Kroos, les Modric autour pour que ces joueurs grandissent. À Paris, si tu fais venir ces jeunes sans cadre, mais ils vont flopper. Et quand je vois que les noms qui sortent aujourd'hui, c'est du Fofana de Monaco à 40 millions, du Dizazi à 60, du Kempfrey Thuram à 60. Ouais, oui, je flippe. Le projet jeune français, si c'est des joueurs de complément, comme on l'a fait avec Mukiele, c'est l'exemple parfait du joueur français qui est bien, tu vois, 8 millions. Il a été post-formé à Leipzig en Allemagne. Tu le récupères une fois qu'il a été post-formé et qu'il est parti ailleurs qu'en France. Mais là, ça me fait un peu peur. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire être parisien? Comme on a l'impression qu'il faut être parisien pour qu'ils comprennent le club. Pour moi, aujourd'hui, un des joueurs qui est le plus parisien de l'effectif, dans la mentalité, c'est Nuno Mendes. Et il n'est pas du tout né à Paris. Donc, j'aime pas trop ce projet qui nous est vendu. Alors, après, est-ce que c'est un peu donner du moudre à beaucoup de supporters qui veulent ça? On verra la réalité du mercato cet été. C'est peut-être de la parole.
C'est possible, mais en tout cas, les noms qui filtrent, pour moi, réveillent des questions. Tu arrives avec des joueurs qui pourrait correspondre à des réponses par rapport à certains de tes manques, en mettant énormément de physique au milieu quand tu penses à Fofana, en prenant l'équivalent d'Ekiteke au milieu avec Khéphren Thuram, parce que grosso merdo, c'est la même chose, hein, faut arrêter de s'emballer. C'est des joueurs qui ont peut-être un potentiel, mais dont la plénitude du potentiel est encore loin et n'est pas encore là, quoi. Etc. Et on n'est pas justement dans les certitudes dont on a besoin, ou des joueurs qui seront des joueurs clés qui apporteront vraiment les réponses. Tu vois, tu mets un Fofana au milieu, peut-être, tu peux essayer de construire un système comme ça. Il y en a qui vont essayer, notamment Guardiola avec celui qu'on appelait la grosse Fernandinho. C'était à peu près le même profil. Tu peux essayer de faire ça, mais tu as besoin d'autres choses ailleurs. Et si tu ramènes qu'un seul joueur comme ça, c'est-à-dire qu'il y a, comme le disait Basto, il y a les pistes, et il y a l'idée du projet, ok, pourquoi pas, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Puis il y a les pistes qui sont annoncées qui, pour moi, sont littéralement flippantes. Est-ce que toi, les pistes, elles te parlent un petit peu plus, Rico?
Elle me parle, mais pour être dans une rotation, comme l'a dit Basto, pour être sur le banc, en fait. Tu vois, c'est comme moi, j'aurais bien aimé qu'on aille chercher un Konaté à Leipzig avant qu'il parte à Liverpool. Tu vois, ce genre de joueur. Mais du coup, ils n'arrivent pas pour être titulaire. Quand il arrive à Liverpool, il n'est pas titulaire. Il s'inscrit dans une rotation. Il s'adapte au club, à la mentalité. Petit à petit, il prend. Voilà. Et puis, après, il s'impose en tant que titulaire petit à petit. Pour moi, un Khéphren Thuram, même un Kolo Muani, il peut peut-être jouer tout de suite sur une aile droite. Mais voilà, des joueurs comme Khéphren Thuram ou derrière même un Todibo, pour moi, ça doit s'inscrire dans une rotation d'abord. Tu vois, et on a l'exemple cette année avec Vitinha. Vitinha, on avait tellement peu de milieu de terrain qu'on l'a fait jouer tout de suite. Et tu vois qu'il n'est pas prêt. Et il serait, si tu avais des cadres autour de lui, il serait rentré dans la rotation petit à petit, s'acclimater. Il aurait été bien encadré par ses mecs d'expérience. Et du coup, il t'aurait rendu de vraies copies. Et petit à petit, il aurait pris leur place. Tu vois, on le voit au Real avec Tchouaméni, Camavinga, Valverde. Ça va se faire petit à petit le remplacement. Mais nous, on n'a pas ces cadres-là. Donc, ça ne sert à rien pour moi d'aller chercher des Khéphren Thuram, les installer titulaires directement, alors que pour l'instant, ils n'ont rien accompli et que c'est des joueurs qui ont encore besoin de progresser. Donc, dans une rotation, ce serait parfait. Mais en tant que titulaire, non, ça ne me rassure pas. Donc, j'ai besoin d'avoir, comme disait Basto, je crois que tu avais cité Brozovic, Barella, des choses comme ça. Bref, des tauliers au milieu de terrain. Et à côté, tu mets des petits joueurs comme ça dans une rotation. Pareil pour Zaïre Emery, c'est un de nos joyaux. Mais si tu n'as pas des cadres à côté de lui, des joueurs qui vont le faire progresser aussi, qui vont lui apprendre le métier, c'est important pour développer un joueur comme ça, tu vois. Et si on ne les a pas, on risque de passer peut-être à côté d'un super joueur.
Et justement, au-delà des cadres, je rebondis sur la remarque de Touf Touf. Est-ce que, par exemple, Basto, pour toi, c'est un des manques criants, c'est-à-dire au-delà d'un cadre sur le terrain, d'avoir un vrai leader de vestiaire, comme peut-être Ramos aurait pu l'être s'il était arrivé 2-3 ans plus tôt, mais un vrai leader de vestiaire, et est-ce que c'est quelque chose qui fait cruellement défaut au Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, ou est-ce que la problématique vient d'ailleurs pour toi?
Ça en fait défaut. Après, il n'y a pas besoin d'en avoir non plus 6, non, 7. Juste un ou deux, ça suffit. Maintenant, déjà, avoir un leader sur le terrain dans chaque ligne, ce serait déjà mieux. On n'en a pas en défense, on n'en a pas au milieu, on en a en attaque. Un peu trop.
Oui, mais aucun n'est... Enfin, à part Mbappé, peut-être. Est-ce que pour toi, justement, avoir un vrai leader dans l'esprit, pas forcément un leader par le jeu, mais un leader dans l'attitude. Enfin, tout à l'heure, Touf parlait de Ibra, et c'est vrai qu'Ibra amenait ce leadership, amenait cet exemple du mec qui était toujours réveillé, le premier qui partait en dernier, du mec qui se donnait toujours à fond dans l'entraînement. On se souvient des commentaires qu'a eu Christophe Jallet dessus. Est-ce que ce genre de profil, à tes yeux, c'est un énorme manque du Paris Saint-Germain? Est-ce que le Paris Saint-Germain peut y arriver sans? Est-ce qu'il est nécessaire que le Paris Saint-Germain en ait un? Comment tu te situes par rapport à cette question?
Moi, je
posais la question à Rico pour le coup.
Okay,
tu avais répondu, on change un petit peu. On évolue.
Pour moi, c'est nécessaire. Je pense que cette année, qui tu as par Mbappé, Ramos, pour moi, tu n'en as pas. Bon, tu as Neymar quand même sur le terrain. Après, dans le vestiaire, je pense que ça peut être différent. Mais Kovacic intéressant, mais peur des blessures. Oui, c'est un super joueur. Après, ouais, les blessures, cette année, je crois que ça va, non? Je ne sais pas. En tout cas, oui, ça peut être un super joueur pour le coup. Mais pour moi, oui, c'est fondamental. Quand tu regardes les équipes qui gagnent la Ligue des Champions, les équipes qui vont tout le temps dans le dernier carré, tu as une exigence, tu as des cadres sur le terrain et en dehors qui montrent l'exemple, qui galvanisent.
City, peut-être pas. Tu as peut-être pas ce
City,
genre de
déjà, tu as l'entraîneur. Déjà, ouais. Tu as l'entraîneur, forcément. Voilà. Mais même les joueurs, c'est... Tu vois, pour moi, tu as vraiment des professionnels. Ruben Dias, Stones... Rodri, le mec à Villarreal, il a joué 3 ans, il habitait encore dans son école, t'imagines, et il venait en Opel Corsa pendant 3 ans à Villarreal. Genre, c'est, tu vois, Rodri, il a même pas de réseaux sociaux, pour te dire, enfin, ça montre quand même, tu vois, le gars, c'est football et rien d'autre. Et puis tu as d'autres joueurs comme ça, je vais pas tous les citer. Mais Haaland, c'est pareil, il a beau mettre 4 buts, il va aller chercher le 5e, il va cavaler. De Bruyne, ça reste professionnel aussi. Gundogan, c'est un exemple. Enfin, ils en ont beaucoup au final. Et c'est pour ça que le collectif est aussi bien huilé et marche aussi bien. Mais du coup, au Paris Saint-Germain, pour moi, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Et pour moi, c'est représenté, quand tu compares ce que tu avais avant et ce que tu compares ce que tu as maintenant, et même dans les époques 90, bah, ouais, pour moi, il y a une énorme différence avec aujourd'hui. Il manque clairement de leader. Tu as besoin d'avoir, pour moi, un cadre au moins par ligne sur le terrain. Et après, si tu peux avoir des leaders de vestiaire en dehors, notamment, par exemple, prolonger un Ramos s'il baisse son salaire, ça te servira toujours. Mais pour moi, c'est nécessaire.
Bah, toi, tu voulais réagir ou...
Ouais, je regardais juste les stats sur les 7 dernières années. La saison la moins prolifique de Kovacic, c'est 45 matchs, donc ça va. Il joue en moyenne entre 45 et 58 matchs par an.
Mais lui, c'est un vrai pour le coup, lui, c'est un vrai aboyeur.
Après, le souci, il y a un autre souci maintenant, c'est que Kovacic, on sait
qu'il
est
suivi par City. C'est vrai, on
Opel. De quoi?
Non, mais c'est vrai pour l'Opel Corsa, oui. Je sais pas, on ne croit pas. C'est vrai.
Je disais juste que Kovacic est suivi par City et Munich et que maintenant, le PSG qui est sur ce genre de joueur n'a plus la main. Il y a quelques années, on pouvait attirer ces joueurs-là. Je pense qu'avec ce qui s'est passé, malheureusement, quand il y a une concurrence sur le dossier comme ça, c'est très compliqué et qu'il faut arriver sur des joueurs peut-être qui seront suivis. Hein, Barella, Brozovic, il y a peut-être moins d'offres, tu vois. Après, Kovacic, oui, si on pouvait. Mais bon, à mon avis, si la Munich, City et PSG devant lui, Paris est son troisième choix.
Hein. Son choix est vite fait. On a une réputation maintenant qu'on commence à se traîner. Enfin, je sais pas, ouais, moi... Je ne sais même pas quoi ajouter. C'est comme toujours à Paris, tu as l'impression que tu pars de tellement loin, en fait. C'est le truc, c'est à chaque saison, au début de cette saison, on avait un peu l'impression qu'on avait trouvé au moins des réponses à certains postes, notamment les postes de latéral. Et à chaque fois que tu finis la saison, je ne sais pas si vous avez constaté, à chaque fois tu te dis, mais putain, il y a tellement de chantiers. Tu as l'impression que tu ne vas jamais finir. Et à l'arrivée, bah, peut-être que le problème, il est ailleurs que juste dans les joueurs et l'entraîneur. Il faudrait peut-être regarder ailleurs, mais bon. Ça ne sert à pas à grand-chose de le dire. Messieurs, on va ouvrir le débat, on va ouvrir ceux qui vous opposent. Vous avez le droit à tout, mais par contre, quand je reprends la main. On va parler du Cup. On va commencer par toi, Basto. Qu'as-tu pensé de l'intervention du Cup?
Je pense qu'ils sont enfin réveillés. J'ai dit à ça d'ici un ou deux lives que leur chant monotone, le fait qu'ils allaient à trois avec une pancarte devant le stade seulement, qui chantaient pas, qui sifflaient toujours Neymar, qui ne sifflaient pas la direction, qui ne sifflaient pas l'entraîneur. Tout le monde en a eu un peu pour son grade hier. Donc Messi, Neymar, Verratti, qui peut-être a perdu son immunité enfin auprès des supporters, Galtier et la direction où ils ont appelé à la démission. Après, il y a eu quelques dérives, Ricoba en parlera, mais c'est toujours pareil, quand tu as des milliers de supporters, enfin c'était peut-être pas 1000, mais plusieurs centaines de supporters qui se réunissent, comme dans toute manifestation, tu vas toujours avoir une frange qui va un peu se radicaliser, encore c'était pas non plus très méchant, il n'y a pas eu de violence contre Neymar, il y a eu intrusion devant le domicile, mais il n'y a pas non plus forçage du domicile, heureusement d'ailleurs, ni violence. Et voilà, bah, ça, c'est les petites brebis galeuses. Ils étaient une vingtaine. Et a priori, ils n'étaient même pas du Cup, puisque d'après Romain Bambil, en tout cas. Donc, c'est peut-être des gens qui étaient venus se rassembler avec le Cup qui ne font pas partie du Cup. Après, la presse, on décide de faire un mélo là-dessus. Ça ne me choque pas tant que ça. On sait que c'est une culture ultra, notamment en Italie, où il y a beaucoup, beaucoup de cas, que ce soit dans le fanatisme ou pour critiquer. Hein. Dans le fanatisme, par exemple, je sais que Lavezzi, il y a des supporters qu'il adorait qui campaient dans son jardin. Donc, c'est... voilà, il y a eu des pressions, les joueurs connaissent ça. En France, on a un peu perdu l'habitude, puisque sous QSI, c'est vrai que les descentes au camp des loges, tout ça qu'il pouvait y avoir à 20 ans, qui était parfois très violente, on ne l'avait plus. Mais voilà, je ne cautionne pas tout, mais je peux comprendre. En tout cas, il fallait faire une action et je suis content là-dessus.
Il y a Fabien qui vient de lancer Ricoba pour sa réponse.
Oui, et ben totalement. Pour moi, c'était nécessaire. On l'a tous réclamé et pour le coup, c'était rare parce qu'on était tous à l'unisson. On était tous d'accord pour dire qu'on ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas de sifflet déjà. Parce que pour moi, il fallait commencer par là déjà. Siffler dans le stade déjà, on ne savait pas pourquoi, on ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas de sifflet. Bon, soit c'est passé maintenant, n'en parlons plus. Mais enfin, on a eu un vrai geste, un geste symbolique. Donc ça, il le fallait, c'est bien. Maintenant, il y a eu des choses qui sont discutables. À l'Inter, quand ils font la guerre à Icardi, tout le monde parle de culture foot. Ouais mais moi, j'aime pas les comparaisons, tu vois. Genre, alors là-bas, c'est plus grave. Donc du coup, tu vois, si on va devant chez Neymar, ça passe parce qu'en Italie, ça c'est plus grave ou à Marseille, ils ont fait plus grave. Non, arrêtons, comparons ce que nous, on est. la faute qui est, c'est grave, point barre. Ne disons pas, c'est pas grave, ça passe, parce que à Marseille, ils ont fait plus grave, ou en Italie, c'est plus grave. Moi, je m'en fous de l'Italie, je regarde ce qui se passe au PSG, personnellement, je trouve ça grave. Du coup, voilà, ce qui est dommage, surtout, parce que, bon, les insultes en soi, bon, c'est partout, les casse-toi, les trucs, c'est pas grave. Bon, insulter les maires, à un moment donné, on a compris, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas certains gars qui ont dit, bon, ça y est, on a assez insulté les maires, on va pas les insulter H24, là, on est sur quelque chose de pacifique, quelque chose d'intelligent pour passer des messages forts, des revendications fortes. C'est ce qui était, c'est ce qui devait être le cas. C'est ce qui a été le cas sur certains messages. Mais du coup, je trouve ça dommage qu'on en vient à insulter encore une fois de plus les maires. On s'en fout, épargnons-les. Casse-toi, démission, bouge-toi les fesses, ce que tu veux. Oui, là, on est d'accord. Là, tu fais passer un message, même si avec des mots plus intelligents, c'est mieux. Mais après, voilà, on sait comment c'est dans le foot. Voilà, casse-toi et tout, machin. Bref, tu comprends la symbolique. Maintenant, viser tout le temps les mêmes, c'est relou. Même si Messi, c'est le symbole, on vise un symbole, en gros, les Qataris qui achètent des stars, les petits caprices, etc., etc., c'est légitime. Mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas visé, par exemple, Marquinhos, qu'on n'ait pas visé un peu toute l'équipe, même s'il y a des dommages collatéraux, parce qu'un Danilo, un Nuno Mendes ne mérite pas forcément d'être ciblé, mais ils vont le comprendre. Ils savent très bien qu'en gros, tu vises tout le monde, tu vises tout ce bateau. Et moi, j'aurais aimé que tu vises tous les joueurs, même Mbappé. Tu vois, même si Mbappé, on peut lui dire, bon, il a refusé le Real, il est resté et tout. Vise tous les joueurs, vise tous les joueurs, vise tous les dirigeants, vise tout le monde, tu vois. Et surtout la direction. Parce qu'on pourra, on en a débattu, le cas Verratti, d'autres joueurs, d'autres trucs qui se sont passés. On en revient toujours à la même racine. Le problème, c'est la direction, c'est QSI. Donc pour moi, j'aurais aimé qu'on charge vraiment cette direction, parce qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le noyau du problème. De quoi ? Ça a été fait. Mais pour moi, pas assez. J'aurais préféré qu'on se focalise vraiment sur eux, plutôt que se focaliser des heures et des heures sur Messi, sur Neymar et aller jusqu'à sa maison. Alors après, oui, c'est pas le cul, mais je pense qu'ils auraient quand même pu faire en sorte que ça dégénère pas trop. Après, peut-être je suis naïf, peut-être que c'est très compliqué aussi. Je suis pas dans ce genre de rassemblement, donc je peux pas savoir si c'est facile ou compliqué à gérer. Je me doute que ça doit être compliqué, mais c'est dommage d'en arriver là. Et surtout, moi, ce qui me déçoit au niveau de ces mots qui ont été mal choisis et de la maison de Neymar, c'est qu'au final, ça décrédibilise le truc. Parce que le mouvement aurait pu, a été bon quand même dans sa globalité, je pense. Mais le message important de la direction qui doit dégager, les joueurs qui doivent se bouger les fesses, je trouve que ça décrédibilise un peu le truc. Ça dessert la cause au final d'avoir ces événements-là. Parce que la preuve, c'est que le PSG a réagi derrière en disant qu'ils se désolidarisaient, qu'ils étaient derrière leurs joueurs, etc. Et au final, même si on ne va pas se mentir, je pense que Nasser n'en a rien à faire, même si ces événements n'étaient pas arrivés et qu'ils auraient écouté personne. Mais finalement, ça dessert un peu la cause parce que ce qu'on retient, c'est ça et ça divise même les supporters. Et ça, c'est dommage qu'on en arrive là.
Basto, est-ce que tu veux réagir ?
Ouais, enfin, je sais pas pourquoi ça divise autant, pourquoi ça choque autant. Comme Gavroche le disait, si on veut se comparer à nous-mêmes, faisons-le par rapport à l'époque Borrelli, par rapport
au PSG. Par l'époque Borrelli,
les descentes au camp des loges.
La combe.
Il y avait des
de terrain, des fumis, j'en passais des meilleurs, quoi.
Oui, mais en fait, tu peux plus le faire dans le stade, mais ils faisaient des descentes au camp des loges et ils ciblaient aussi des joueurs. Hein. Tout le monde était sifflé au stade, etc. Mais dans les descentes au camp des loges, c'était souvent des symboles qui étaient ciblés et les remplaçants, les machins, n'étaient pas forcément pris à partie. Évidemment, la direction n'était plus. Maintenant, on sait que le cup est aussi sous ordre de Nasser. Bon, ils ont demandé cette démission alors que c'est un peu leur patron, tu vois. Ils sont pas employés du club, le cup. Donc, c'est déjà fort. Et les cibles, que ce soit Messi, Neymar, Verratti, Galtier et la direction, pour moi, ce serait été les cibles que j'aurais pris aussi personnellement pour différentes raisons. On ne peut pas cibler tout le monde. C'est un ras-le-bol, une espèce de pression d'être piétiné, tu vois, par certains de ces joueurs-là. Et c'est aussi, c'est très symbolique, mais moi, ça ne me choque pas. Et je pense qu'il y a 20 ans, il y aurait eu ces actions-là, ça n'aurait pas divisé les supporters. Et je pense qu'on a perdu une culture du contre-pouvoir à Paris qui fait que maintenant, ça divise un peu.
Et c'est qu'on est passé à un supporterisme un petit peu lisse, mine de rien, à Paris. On va pas revenir sur l'histoire, les deux décès. Ensuite de ça, les supporters qui ont tous été, sont devenus persona non grata. Le Parc des Princes qui se remplissait grâce à des pochettes surprises quand on allait acheter un menu chez Quick ou je sais pas quelle autre opération commerciale ils pouvaient trouver à l'époque pour essayer de faire croire qu'il y avait quand même 20 000 personnes qui avaient envie de venir. Pour finalement, après moult négociations, trouver un accord avec des gens qui avaient envie de remonter une tribune. Mais voilà, il y a accord et donc il y a un certain muselage. Enfin, tu vois, moi, je ne suis pas en train de les critiquer. Les mecs, ils avaient envie de vivre leur passion. Ils sont battus pour. Mais voilà, il y a une relation qui est un peu ambiguë entre les supporters, les cups en tout cas, et le Parc des Princes. Et il y a que ça, c'est devenu lisse. Parce que en soi, ce supporterisme, tu vas à peu près partout, il continue d'exister. En Angleterre, non, parce qu'ils ont fait la chasse aux hooligans. Mais c'est qu'en Angleterre, tu as pas mal de gens qui commencent à aller ailleurs. Et à vouloir faire un truc trop lisse, c'est quand même... Wow, il y a quand même de quoi gueuler, là. Franchement, vous regardez l'état du club, on est la risée de l'Europe, la risée de la France. Au niveau attitude, dans le jeu, c'est pathétique. On a un budget, on ressemble au Harlem Globetrotters. T'as l'impression qu'on fait des exhibitions. On n'est même pas capable de gagner les exhibitions. Il y a un moment où il y a de quoi gueuler. Il y a de quoi dire, mais attends, où est-ce qu'on se retrouve dans le club? Et pourquoi choisir Marco Verratti? C'est un symbole, mine de rien, c'est un symbole. C'est lui qui incarne aussi pas mal les défaites. Il ne met pas un pied devant l'autre. Neymar et Messi, c'est des symboles de ce que c'est devenu. Et Nasser a été nommé. Mais moi, le club... Alors peut-être qu'au niveau des chants, ils auraient pu être un peu plus créatifs, que c'était juste deux, trois insultes à coller à un truc, mais que ça aurait pu être un peu plus créatif. Mais enfin! Enfin! Il était temps qu'il le fasse, bordel! Non, mais ça reconnaît.
Ah non, mais là-dessus, on est d'accord. Il était temps et ils l'ont bien fait dans la globalité. C'est juste dommage d'employer certains mots.
Ouais, mais on s'en
va arrêter chez Neymar. C'est juste ça, en fait. C'est que ça gâche le truc au final. Parce que la preuve, c'est qu'on parle tous de ça et que certains se désolidarisent un peu du truc, tu vois. C'est ça qui est dommage, en fait.
Ouais. Mais en fait, dans tout rassemblement de personnes, quand il y en a, il y aura forcément quelque chose à redire. Mais moi, pour moi, c'est. Ouais. Bon, je partage l'avis de Seb là-dessus, mais. On va pas épiloguer.
Non. Mais alors, bon, bah après notre actualité n'est pas ouf. Je vais. Il y a Ismaël Corleone qui nous disait tout à l'heure, bonsoir les amis, pourquoi ne pas aller regarder du côté de l'Angleterre pour recruter des guerriers pour le milieu et la défense? Qu'est-ce que cette réflexion t'inspire, Basto? Est-ce que tu veux bien
Idrissa Gueye répondre? Guerrier alors... Angleterre. Ça dépend toujours du profil de joueur. Si c'est un guerrier, c'est le récupérateur en mode Zakaria de Chelsea, mais qui après va signer à l'OM d'ailleurs libre. Non merci. Si c'est des bons joueurs de ballon, oui, pourquoi pas. Voilà, moi, pour moi, il faut qu'un joueur soit complet. Il ne faut pas que ce soit juste. J'aime pas ce mot guerrier déjà, de toute façon, dans le milieu du foot. C'est qui? C'est un cousin de Neymar?
Il y a l'échange, ouais. Vas-y, continue.
Ah, Ougarté, oui, Ougarté, ça serait.
Vous êtes des Parisiens odieux, je crois que c'est ça que ça veut dire, non?
Les voix parisiennes sont odieuses ou un truc dans le genre. Bossé Sao, j'imagine c'est les voix. Enfin, j'en sais rien. Après, je parle pas portugais, mais vas-y, continue donc, Basto, sur les guerriers qui viennent d'Angleterre. Est-ce que pour toi, il faudrait regarder en Angleterre déjà? Est-ce qu'on a une chance de recruter quelqu'un d'Angleterre?
Ouais, c'est compliqué. Hein.
Ouais.
C'est un marché très très anglo-saxon hein, entre eux, avec des prix qui sont hors marché en plus, des prix qui sont que sur le championnat anglais où ils vont acheter des joueurs de D2 40 millions, se faire des transferts entre eux. Donc c'est pas le marché le plus simple. Ouais.
Et toi, t'y crois à ce marché pour le Paris Saint-Germain, Rico?
Non, pas forcément. C'est vrai. En fait, surtout, pour moi, c'est les prix. C'est là-bas, c'est un peu hors de prix. Après, est-ce que tu as des pioches là-bas? Oui, parce que dans tous les cas, tu as de plus en plus de joueurs étrangers là-bas. Et tu as de plus en plus aussi de joueurs anglais qui ont un énorme vivier. Pour moi, l'Angleterre, quand tu regardes l'effectif, ils peuvent avoir deux, trois équipes, l'équipe nationale, un peu comme la France, un peu comme le Brésil ou comme le Portugal. Donc, on le voit d'ailleurs avec Balogun. C'est des joueurs qui, du coup, maintenant, vont s'exporter de plus en plus parce qu'ils vont être barrés dans le championnat anglais parce qu'il y a énormément de joueurs étrangers. Donc oui, il peut y avoir des joueurs intéressants à aller chercher dans ce championnat, étrangers comme anglais. Maintenant, le problème, c'est que souvent, ils sont très, très bien payés. Alors, au PSG, ça ne pose pas trop de soucis. Mais bon, pour moi, ce n'est pas forcément une solution. Ça peut l'être, mais pas plus que dans un autre championnat.
Qu'est-ce que tu veux dire, F, pareil à l'Ajax? Je ne suis pas sûr de voir ce que tu veux dire.
Sinon, il y a...
hein c'est au niveau des supporters.
Non, peut-être, je pense que c'est au niveau du recrutement, peut-être recruter à l'Ajax.
Son message n'était pas clair, c'est pas grave. Si elle renvoie un message, on le lira. Sinon, il y a un joueur qui a été énormément nommé depuis tout à l'heure, c'est Barella. Est-ce que c'est un joueur qui vous fait envie? Si oui, pourquoi? Comment serait-ce?
Oui, totalement. C'est un milieu qui sait tout faire, qui a un gros abattage, qui est technique, qui sait se projeter, marquer des buts. Voilà, c'est un peu un Verratti en amélioré, je trouve. Et pour le coup, il est quand même champion d'Europe. Il fait des saisons avec l'Inter ultra abouties. Encore une fois, il a fait une énorme perf face au Benfica. Donc même en Ligue des Champions, c'est costaud. Donc ouais, Barella, évidemment, c'est un super profil. C'est un joueur dont on a besoin. Est-ce qu'on va être capable d'aller le chercher? Ça va coûter cher, l'Inter, à voir, parce qu'en général, bon, quand tu mets le prix, l'Inter, il donne, en général. Donc, faut voir, mais ce serait un super joueur, c'est clair.
Est-ce que justement, bah, c'est Bastos du coup qui va répondre. Si tu veux réagir, tu réagiras bien sûr, Rico. Est-ce que c'est le milieu sur lequel il faut mettre l'argent, Bastos? Si par exemple tu ne peux en prendre qu'un seul, est-ce que c'est sur celui-là que tu foncerais?
C'est compliqué, on a tellement de manques, non, pas forcément. Après, je ne sais pas forcément qui je prendrais ou
Ça
si
manque
c'est
de
possible.
taille, quoi. Ça manque de
Mais
taille.
là, déjà, ce qui serait intéressant, comme a dit Rico, c'est surtout mot projection. Donc, projection, c'est-à-dire que c'est un milieu qui, sans ballon, est devant le ballon et pas derrière le ballon. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable, on n'est pas trop habitué. Qui, en plus, est fiable physiquement, peut pas trop blesser quelques-unes, mais ça va encore. Et qui est technique, parce qu'il y en a qui se projettent, mais qui ne sont pas techniques. Donc, c'est un peu problématique. Barella, un peu tout. Maintenant, effectivement, Verratti, Vitinha, Barella, ça fait 1m60, entre 1m75 à tout casser. C'est pour ça qu'un Brozovic qui est un peu plus grand, qui lui est plus devant la défense, peut-être que c'est mieux pour Paris, mais après, il manquerait de projection. Donc, en fait, il ne peut pas y avoir une recrue, il en faut vraiment deux au
De
minimum.
toute façon, ouais. Mais alors, du coup, je vais étendre la question. Rico, on te dit, tu as le choix entre Barella ou Silva, tu choisis qui?
Silva, Antonio Silva, Bernardo Silva, oui.
Bernardo, Bernardo. Si on parle de Barella, on parle de Bernardo.
C'est compliqué. Pour moi, il faut les deux, en fait, parce que Bernardo peut jouer à tellement de postes. Je vais dire Bernardo Silva parce que tu peux le faire jouer sur l'aile droite, tu peux le faire jouer en 10 et tu peux le faire jouer aussi dans un milieu à 3 à la place justement de Barella. Donc, je vais dire Bernardo Silva, mais pour moi, il faut prendre les deux.
Basto.
Bah Bernardo, hein, Bernardo. Bernardo est plus un 6
Et puis
technique
tu
comme
peux
Bernardo.
avoir Rabiot libre à la limite si tu prends Bernardo, tu
Bernardo
vois.
libre, ce serait intéressant. Ouais.
C'est pas intelligent. Ça pourrait être intelligent, mais comme ça a été dit à nombreuses reprises, il nous faut le coach avant de parler de toutes ces choses-là. Et ce que disait Eve sur l'Ajax, elle parlait de recrutement. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne période pour recruter à l'Ajax. On a une génération de joueurs
Ils ont
qui
été
a du
pillés par une
mal.
équipe.
Ouais, et la génération actuelle de joueurs, elle a quand même vachement de mal à performer cette année. Alors, est-ce que c'est juste le temps que parce qu'il y a tellement de nouveaux joueurs qu'ils arrivent en Europe et ils se cassent un peu tous la gueule et que l'année prochaine, ils vont se remettre au niveau, on verra. Mais notamment, comment il s'appelle le milieu, Thompson?
Taylor.
Taylor, voilà,
Le Taylor.
qui est extrêmement décevant alors que je l'attendais de pied ferme. Et je pense que pour l'Ajax, c'est un peu trop tôt. Va falloir attendre un petit peu avant
Ouais,
d'aller se pencher là-bas, quoi.
c'est la fin du cycle Ten Hag et ils font pas une grande année. Hein. Ils sont
Non,
troisième en
non, vraiment
championnat.
pas. Et après, je regarde si jamais il y a une autre question, à part le Paolo et César, j'arrive pas à comprendre
Enzo le
pourquoi
fait,
Alex n'a toujours pas.
Gavroche.
Gavroche, il a parlé, Gavroche?
De Enzo le fait, on en a parlé tout à l'heure.
Mais Basto est fan. Explique-nous pourquoi tu le veux à Paris, à Basto.
Moi, je suis pas fan. Je trouve que c'est un très bon joueur d'appoint. Donc, si on recrute, justement, on a parlé des Bernardo, des Brozovic et tout, qu'on en recrute deux comme ça. Enzo Lefebvre qui arrive dans la rotation pas cher, à 10-12 millions parce qu'il a un an de la fin de contrat et qu'il arrive pour être sur le banc dans un premier temps. Je trouve ça beaucoup plus cohérent à ce prix-là qu'aller mettre 60 sur un Thuram ou 40 sur Fofana. Tu vois, c'est juste une question de rapport qualité-prix pour un joueur de complément au milieu. Enzo, c'est un très bon joueur. C'est un peu dommage. Il risque d'aller à Dortmund, je crois. Moi, Dortmund est fort là-dessus. Il va être très bien un peu se former à Dortmund. Peut-être qu'on récupérera dans 3 ans, 4 fois plus cher. Les rumeurs arriveront à ce moment-là. Mais voilà, un joueur comme ça, pas cher, c'est une opportunité pour moi.
Est-ce que pour toi, ce serait une opportunité aussi, Rico?
Pour Enzo Lefebvre,
Ouais.
oui, c'est des joueurs qui peuvent être intéressants, mais ouais, comme l'a dit Basto, dans la rotation, je ne vois pas être titulaire chez nous. Après, est-ce que c'est parce que la rotation, c'est pas donné à tout le monde non plus d'être bon quand tu joues et de ne pas avoir forcément de rythme. Donc, est-ce qu'il pourrait s'acclimater à ça? Tu vois, c'est la question, mais comme beaucoup de joueurs. Mais bon, après, ça dépend ce que tu veux en faire, parce que l'acheter pour le mettre sur le banc et quasiment pas le faire jouer comme pas mal de joueurs, ça sert à rien. Mais c'est un joueur hyper intéressant, qui a un gros volume de jeu, qui a une belle vista. Donc moi, personnellement, je ne serais pas contre. Après, tu as d'autres profils aussi, donc ça dépend, mais c'est un bon joueur, c'est un bon joueur.
Moi, à titre perso, toi, si tu étais dans un monde parfait, tu pourrais le mettre en concurrence avec Vitinha et les deux, ça serait très intéressant. Mais la problématique, c'est que comme on va prendre un petit, c'est le mec que j'ai envie de mettre sur le banc, bah, c'est plutôt un mec grand, quoi, juste pour compenser. Et pas encore un énième petit, parce que mine de rien, on commence à les collectionner au milieu, les petits. Et ce serait pas mal d'en avoir un grand. Alors quand je dis grand, je parle pas de la brute épaisse qui va tout casser sur son chemin, hein, mais voilà, au moins en avoir un dans l'effectif. Et si tu le prends pas sur le terrain, bah, sur le banc, je prendrais pas. Voilà, donc ça va vraiment dépendre de qui on prend. Et c'est une idée qui me séduit, mais ça peut être aussi, tu vois, c'est toute la problématique que nomme Rico, c'est est-ce qu'on a la capacité à vraiment intégrer des joueurs dans la rotation, savoir faire, par exemple, comme le fait même certains clubs, Guardiola, tu sais, c'est après un an, je pense pas qu'on a cette culture-là. Donc est-ce que c'est les joueurs, est-ce que c'est leur rendre service, est-ce que à l'arrivée, tu te retrouves pas à acheter un joueur pour le revendre limite moins cher que ce que tu l'as acheté? C'est la question que je me pose, quoi. Basto?
Oui, je suis
Non?
là.
Ok. Alors là, bah maintenant, dans le chat, on nous parle de kangourou. Il y a Paname J qui est complètement en train de partir en sucette. Je ne sais pas trop. Ah, mais bah, Paolo César, il va falloir qu'il se fasse jarter. S'il y a quelqu'un qui peut s'en occuper, ça serait cool. Et ceci, non, mais le mec,
Bando de Parisiennes
il est bon, après, il est plus
incompétentes.
drôle. Voilà. Il est plus drôle, mais bon,
Boules,
après,
c'est
il se répète un
Fatboy
petit
de
peu en
Neymar, je
boucle
pense.
et il n'arrête pas, quoi. Mais bon, ceci dit, bah, en tout cas, ce fut un plaisir, messieurs, d'être avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère. Ah oui, il y a un truc que j'ai pas fait, les likes. Il y a plusieurs fois, ça a été demandé. J'en ai marre de faire la police du like. Juste prenez les 2 minutes et faites-le. Votre putain de like, ça vous prend 2 secondes et puis c'est fini, quoi. Et ah,
D'accord,
tiens,
engage.
Rico voulait ajouter un truc.
Ouais, si je peux juste ajouter un truc, en fait, ce
Vas-y.
serait que j'aimerais bien qu'on soit un peu tous dans la mesure. Tu vois, j'en ai un peu marre qu'on soit tous blancs ou noirs, que en fait, soit tu cautionnes, soit tu cautionnes pas. Tu sais, tu peux pas être un petit peu au milieu, être un peu plus mesuré par rapport à l'histoire d'hier. C'est ça le sujet, Adrias, si tu veux savoir, si tu n'avais pas compris, c'était par rapport au sujet d'hier, par rapport aux supporters. Pour moi, il y en a marre en fait qu'on soit. Tu sais, c'est un peu comme le parc. C'est soit tu es pour rester au parc et du coup tu es un vrai supporter, soit tu es contre, tu voudrais partir pour plein d'arguments qui sont recevables et du coup tu es un footix, tu as machin. Mais là, c'est la même chose. Moi, j'en ai marre qu'on soit toujours soit blanc, soit noir. On ne peut pas être nuancé, on ne peut pas être un peu gris. J'aimerais bien quand même que on peut être d'accord avec ce mouvement, d'accord avec ce qui s'est passé et dire que c'est une très bonne chose. La preuve, je l'ai dit. Mais savoir garder un peu de nuance et savoir reconnaître quand même qu'il y a des fois. Il y a des choses qui ont été dites qui sont mauvaises, qui sont pas bonnes, que c'est dommage, etc. Sans pour autant passer pour un mec qui est contre le club, qui n'a rien connu du PSG, qui, tu vois.
T'as eu affaire à des gens sur Twitter, toi, aujourd'hui.
Sur un faux
Oui,
supporter. Ah ouais,
voilà,
non, mais moi, en fait,
il y
j'en
a
ai
des
marre
petites
de ce
séquences mal
discours tout
vécues,
le temps.
là.
Il y en a marre de ce discours, en fait, où dès que tu nuances un petit peu, dès que, bah, ça y est, en fait, t'es contre eux, donc t'es un faux supporter, t'es
En
ci,
même
t'es
temps,
ça.
Twitter, t'as pas
Ouais,
de
c'est
nuance,
relou.
donc
J'aimerais
bon,
qu'il y ait un peu de nuance des fois de temps en temps et qu'on puisse avoir des avis qui soient des fois un peu plus mesurés plutôt que de voir absolument soit être noir, soit être gris, soit être blanc, pardon.
Et
La
ben,
nuance n'existe pas sur Twitter, Rico, bah, il faut pas faire attention là.
on va vous laisser sur cette conclusion de Réco qui nous invite à tous à un petit peu plus d'amour et d'eau fraîche. Mettez-en tous les matins. Ça vous fera avoir des meilleures journées. C'était la petite réclame commerciale. Et j'ai cru voir, mais enfin, c'est pas 5, c'est 65. Mais vraiment, au niveau des lives, vous pouvez faire plus. Et ceci dit, ciao tout le monde. Et ici, c'est Paris.
Ciao.
Ciao.